Elle a ému la France entière avec son histoire, souvenez-vous, 101 ans, mémé par en vadrouille. C'était en 2017, alors qu'on donnait une semaine à vivre à sa grand-mère, Fiona décide de l'embarquer dans son camping-car et de faire un tour d'Europe, et sa grand-mère vivra 3 années de plus. Elle n'est plus là aujourd'hui, mais le combat continue pour Fiona et pour ses parents. Et j'ai le plaisir de les accueillir ce matin. Fiona, bonjour.
Bonjour, Cyrielle.
Et Thierry, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un plaisir de vous accueillir. C'est pas la première fois qu'on vous accueille, c'est la troisième fois, mais vous êtes de passage sur Gap. Vous repartirez ce matin du côté de Grenoble. Et je voulais aussi saluer Johanna qui m'a écrit la semaine dernière pour me dire qu'elle admire votre travail. Vous la connaissez, on en a parlé juste avant, hein, Johanna.
Oui, c'est une abonnée, une de nos nombreux abonnés.
Voilà, et elle parle de votre travail. Et vous parlez, vous, des arthrolescents. Je trouve que le terme est très bien employé. En fait, vous parlez de la vieillesse aujourd'hui parce que, quand je disais votre combat continue, il a pris une autre tournure aujourd'hui, un peu plus politique.
Alors, on ne parle ni politique ni religion, mais effectivement, on rencontre de plus en plus de sénateurs, de députés, puisqu'à la fin de notre Tour de France, au mois de juin 2026, nous sommes attendus à l'Assemblée nationale et au Sénat pour donner un compte-rendu de ce qu'on aura vu, puisqu'on va faire tous les départements un par un de France, et ce pendant un an en direct. Donc, chaque département, on va passer vraiment de partout. On a commencé le 1er juillet, on est parti de Vendée et on a fait tous les Pyrénées, l'Aude, la Côte d'Azur.
Le ouais. Gard, etc. On a fait une vingtaine de départements.
Mais un tour de France pour faire quoi? Pour dire quoi? Pour écouter?
Pour parler, pour expliquer qu'il y a une situation grave. Il y a 4 millions de personnes âgées isolées et on parle de cette situation avec tout le monde. Les politiciens, les religieux, avec ceux qui ont envie d'écouter, avec surtout les quidam, donc les personnes qu'on rencontre dans la rue, qui viennent nous voir au camping-car. On parle avec tout le monde de ce sujet, parce que c'est un sujet qui effraie, qui reste un peu tabou, dont on parle très peu. Donc nous, on veut qu'on en parle pour réussir à changer et à inverser, parce que si aujourd'hui, on a 4 millions de personnes isolées et des centaines de personnes qu'on trouve mortes depuis 2 ans, 3 ans, 7 ans le record en France et 10 ans le record en Espagne. Nous, on trouve ça abominable. Et si c'est multiplié par 2, voire par 3 d'ici 30 ans, ça sera catastrophique. Donc, en parler, pas pour nous réussir à changer le monde, mais pour que le monde réussisse à écouter et à se changer lui-même.
Exactement. Et c'est pas que les politiciens, justement, c'est à la société de prendre ce sujet à bras le corps, parce qu'on va tous vieillir un jour. Et il ne faut pas confondre la vieillesse avec la maladie, parce qu'on peut très bien vieillir, avoir plein d'activités. Et comme vous disiez justement, moi, ma grand-mère, quand j'ai récupéré, elle était dans ce qu'on appelle le syndrome du glissement, donc plus d'intérêt à la vie. Elle a eu plein de premières fois à 101, 102, 103 ans, avec son premier concert à 102 ans dans le désert des Bardenas. Et malgré qu'elle porte une protection, malgré qu'elle soit en fauteuil roulant, on a réussi à faire énormément de choses avec un camping-car qui n'était pas du tout adapté à ma grand-mère. Mais c'est ma grand-mère qui s'est adaptée au camping-car. Donc, en fait, quand on veut, on peut. Et on a énormément à apprendre aussi de nos anciens. Donc, arthrolescent, parce que je trouvais le mot sympathique. Les personnes âgées n'aiment pas qu'on dise que ce sont des vieux, puisqu'en fait, à quel âge on est vieux. Et un jour, on était en pleine conférence et il y a une dame qui dit « Non, mais moi, je ne suis pas vieille, j'ai 94 ans, mais je ne suis pas vieille ». Et je lui ai dit, vous êtes une arthrolescente, pour faire un jeu de mots avec adolescent, adolescent, arthrolescent, parce qu'on a tous de l'arthrose à un moment donné. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de croquer la vie jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on veut montrer, justement. Arrêtons de penser qu'arrivé à un certain âge, on devient inutile à la société. On a énormément à apporter à cette société.
Alors, j'ai fait un rapide coup d'œil sur les politiques vieillesse en France. Alors, l'émergence de la politique vieillesse date de 1962. C'était le rapport Laroque. Le dernier grand acte politique, c'est la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation, on en parlait, de la société au vieillissement. Dans ce texte, on voit que c'est devenu un impératif national pour rompre avec le tout médical, en reconnaissant les aidants familiaux, en promouvant la prévention et avec une participation sociale pour lutter contre l'isolement. Il y a un acte, mais il n'y a pas d'acte.
C'est ça
que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Il y a un acte, on reconnaît, mais il n'y a pas des paroles aux actes, ça reste encore
autre
chose.
Voilà, il n'y a pas de suivi en fait.
Ouais. Cette participation sociale, On en parlait juste avant, alors on va pas se cacher, on a parlé de ce sujet et je disais, mais est-ce que tout doit venir du national? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des initiatives qui peuvent émerger du local?
Non, mais oui, alors on doit démarrer par le national pour que le local écoute et pour que le local soit soutenu.
Mais des fois, le local dit, mais oui, mais moi, on m'écoute pas au niveau national.
Donc justement, c'est pour ça qu'on est en train de parler avec les politiciens pour essayer que le local soit écouté. Mais, alors, c'est pas pour faire de polémique ou quoi que ce soit, mais dans la municipalité de Gap, par exemple, ils ont pas voulu nous écouter. Donc, le problème, c'est un petit peu ça qu'on a, nous, socialement, c'est que on n'est pas reconnu comme une association ou autre, donc du coup, c'est pas sérieux.
Or, vous êtes des lanceurs d'alerte.
Si vous voulez. Moi, bon, les mots me plaisent pas, on est des êtres humains qui essayons de faire quelque chose. Voilà. Et on est des êtres humains, on essaye de faire quelque chose. Vous savez, quand vous avez plusieurs personnes qui viennent au camping-car et qui se mettent à pleurer sur votre épaule en disant « on est des fantômes, on est des invisibles de la société, parlez de nous », à moins d'être très insensible, sinon, bah, forcément, c'est pour ça qu'on le fait. Et on parle beaucoup plus avec les politiques ce qu'on croit, parce qu'en fait, on va parler avec environ 2000 politiciens dans l'année, alors qu'on va parler avec plus de 100 000 personnes dans l'année. Donc, on ne parle pas qu'avec les politiciens. Mmh. On essaie de réunir la nation sous un thème qui connaissent déjà, mais qui ne parlent pas eux-mêmes. Donc, si on réussit à tous les assembler ensemble et à tous parler ensemble de la même voix de ces personnes qui sont isolées, encore une fois, je reprends, dans 30 ans, ça sera pire. Donc, il faut le faire maintenant. Oui. Et c'est pas quand on nous reçoit au CCAS ou ailleurs, c'est très bien. Mais quand on va dans des collèges ou dans des lycées, on voit qu'il y a une écoute certaine, qu'on ne s'attend pas parce qu'on se dit, on monte les jeunes contre les vieux, ce qui est complètement stupide, ou les vieux contre les jeunes. Je m'en fous, on le prend du sens où on veut. Mais c'est complètement stupide parce que c'est ensemble qu'on mène la société et qu'on pourra changer la société future.
Vous avez rencontré ce lundi la députée d'Hautes-Alpes, Marie-Josée Allemand, ainsi que la vice-présidente du département. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait pour les personnes d'un certain âge, les arthrolescents?
Alors, la première chose qui serait intelligente de faire, ça serait par exemple un référent quand vous arrivez à la retraite. Qu'on vous explique qu'il y a un numéro vert pour les personnes isolées, qu'on vous explique tout ce qui se passe dans le territoire. Et malheureusement, c'est pas toujours fait. Alors à Gap, j'ai pas eu la possibilité de parler directement et de savoir exactement comment ça se passait. Mais dans la France entière, il y a des trous incroyables et l'information ne passe pas. Donc la première des choses, un référent ferait passer l'information avec un petit livret très simple en expliquant les droits et les devoirs d'une personne qui arrive à la retraite.
Et les devoirs. Je vous entends souligner ce « et les devoirs ».
Absolument. Parce que je vous prends un exemple rapide, mais dans un EHPAD, un monsieur de 92 ans dit à une aide-soignante « Hey, va me chercher à boire ». Je lui dis « Mais comment vous lui parlez ?» Il me dit « J'ai le droit, mon fils, il m'a dit, tu payes, t'as le droit ». Mais non, c'est pas ça. Donc, effectivement, le problème, c'est qu'on le place là-dedans et on lui explique pas ses droits et ses devoirs.
Mais c'est le bien vivre ensemble, en fait. C'est une notion de bien vivre ensemble que
c'est
vous êtes
ça.
En train de souligner.
C'est ça, mais sauf que comme on n'en parle pas assez, et quand vous êtes retraité, que vous avez vécu toute votre vie en vous disant « Quand je serai à la retraite, j'aurai le droit de faire ce que je veux », ben non, t'as pas le droit de faire ce que tu veux. Il y a malheureusement des règles aussi à la retraite, mais on n'en parle pas. Non, ce qui fait que tu as des droits que tu ne connais pas, et tu as des devoirs que tu ne connais pas. Et tu te retrouves tout seul à 90 ans, ta femme vient de mourir, c'est elle qui faisait les papiers, tu vas téléphoner à France Service, tu dis voilà, je sais pas m'en servir et tout, oui, bah, il faut prendre rendez-vous. D'accord, bah, je prends rendez-vous. Non, faut que vous alliez sur Internet pour prendre rendez-vous. Je délire. Donc, le problème de l'information, alors qu'on a tout pour être informé, passe très mal. Donc la première chose, un référent, pourquoi pas, comme en Suisse, des écoles intergénérationnelles, excusez-moi, pourquoi pas, comme en Italie, des badantes qui viennent à domicile et qui surveillent les personnes, enfin qui aident les personnes 24 heures sur 24. Il y a des solutions, il y en a plein. Et il existe déjà en France des maisons à vivre, des maisons partagées, etc. Ça marche très bien, sauf que chaque fois que localement, justement, on essaye de le faire ou d'en parler, on se retrouve devant un mur parce que c'est pas très connu, parce qu'on sait pas comment ça va se passer, oui mais les financements, etc. Parlons déjà du sujet et des problèmes, et après parlons des financements. Bien sûr, il faut des financements. Mais si on n'essaie pas... Moi j'ai un exemple d'un EHPAD qui a été construit à 30 km d'une ville, parce qu'un président de région décidait de le mettre là. Il y avait 200 places dans l'EHPAD et il n'y avait que 40 personnes résidentes dans l'EHPAD. Un EHPAD public, parce que personne voulait y aller. Donc, commençons d'abord par discuter ensemble autour d'une table des problèmes et de ce qu'il faut faire, et après, discutons d'argent. Quand on distribue l'argent comme ça, en disant « Tiens, tu as besoin de 50 000 euros, je te donne 50 000 euros », mais on ne regarde pas ce qui se passe, ben on voit les résultats.
Fiona, est-ce que quand vous avez pris la décision de vendre votre maison, de partir en camping-car avec votre grand-mère, est-ce que vous vous imaginiez cela, plusieurs années plus tard, ce combat que vous alliez mener ?
Alors, pas du tout, en fait. Quand j'ai pris ma grand-mère, vu qu'on m'a annoncé qu'elle en avait pour une semaine à vivre, je l'ai récupérée parce qu'on ne s'entendait pas du tout ensemble. Elle m'appelait la vieille moche, etc. Mais,
C'est sympa.
Mais en fait, je me suis dit, si j'étais à sa place, est-ce que j'aimerais mourir seule, loin de tout le monde, et être entourée de ma famille ? Et comme pour moi, c'était une évidence, je suis vite allée la chercher, mais je m'attendais à ce qu'elle meure au bout d'une semaine. Donc, je l'ai récupérée, je m'en suis occupée, et c'est vraiment au bout de 6 mois à la remettre sur pied que quand j'ai vu qu'elle allait de mieux en mieux et qu'elle fixait le mur blanc, je me suis dit, mais attends, mais c'est ça la vieillesse ? Attendre bêtement la fin ? Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait vivre pleinement, et que donc, je lui ai proposé de partir en camping-car. Mais pareil, je ne savais pas du tout combien de temps on allait partir. On a fait un test de 40 jours pour voir si ma grand-mère s'acclimatait à son nouvel environnement. Et les 40 jours, tout est parti de travers, elle s'est cassée le nez, il y a eu la grêle, elle a cru au bombardement. Quand je l'ai ramenée à la maison, je me suis dit, plus jamais elle va vouloir voyager. Et le lendemain matin, quand elle m'a dit, ça y est, je suis assez reposée, on peut repartir. L'aventure débutait vraiment. Et quand elle est partie dans son sommeil à ses 103 ans, 3 mois et 3 semaines, ça m'a fait un choc parce qu'en fait, elle est devenue immortelle. Puisque d'une semaine, finalement, on avait vécu plus de 3 ans de folie. Et je lui avais promis d'écrire l'histoire, donc j'ai tenu ma promesse.
Vous l'avez écrite.
Exactement. Et le livre est sorti, il a été traduit à l'international et il va être adapté d'ici un an au cinéma. Je me suis dit, attends, mais si je me suis aperçue que la vieillesse, on avait tout faux sur le sujet, parce qu'il fallait pas les surprotéger, fallait pas les laisser de côté, fallait les inclure absolument dans notre société, autant essayer de passer le message. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec notre premier Tour de France qui a commencé 2022-2023, qui nous a amené jusqu'à l'Assemblée nationale et au ministère, à qui on a remis un dossier qui a dû servir à caler un meuble. Donc après, on est parti sur ça, voir les pays européens justement pour voir comment eux s'occupaient des personnes âgées, en se disant ils ont peut-être des bonnes idées qu'on pourrait mettre chez nous. Et en fait, ils ont des bonnes idées, mais c'est vrai que finalement, on n'a jamais fait d'études sur la vieillesse. Et eux aussi ont tendance à s'occuper des personnes âgées, physiquement, mais mentalement, de ne pas chercher à savoir ce qu'ils veulent vraiment.
De ne pas les comprendre.
Exactement, mais même en Turquie, par exemple, on avait rencontré une dame de 70 ans qui n'attendait qu'une chose, c'était de mourir, alors qu'elle n'avait que 70 ans. Mais elle se tuait dans la nourriture parce que ses enfants étaient en Allemagne, ses enfants... Alors effectivement, ils envoyaient beaucoup d'argent, mais l'argent, ça ne fait pas tout. Et donc, en fait, on s'est dit, là, poussé par nos abonnés, Johanna notamment, donc poussé par nos milliers d'abonnés, on s'est dit, on va refaire un Tour de France et on va essayer de faire vraiment changer. Et mon petit papa m'a dit, il faut aussi contacter les sénateurs. Et on a été surpris par justement la réaction des sénateurs qui nous ouvrent leurs portes.
Et des députés.
Oui, et des députés aussi.
Au premier tour, on avait joint que les députés, donc c'était normal que les sénateurs ne réagissent pas. Et là, en essayant de toucher tout le monde, c'est pour que tout le monde prenne ce sujet à bras le corps, y compris les journalistes, comme vous, merci. Et donc, non, mais c'est ça, si on n'a pas tout le monde derrière nous, ça ne marchera pas. Si tout le monde prend conscience que pour eux-mêmes, ce qu'on entend aujourd'hui, s'ils ne prennent pas maintenant les réactions, maintenant qu'ils agissent pas, alors moi, je dis pas de descendre dans la rue et de crier, je dis juste que on essaye une nouvelle méthode, humanité et communication, et je suis sûr que ça peut marcher. À notre niveau, on a déjà aidé plus de 60 000 personnes, qu'on a ou sorti l'EHPAD, ou rentré en EHPAD, ou aidé une dame qui avait 40 ans et qui voulait divorcer. Enfin, son mari voulait divorcer parce qu'elle supportait pas le grand-père. Et finalement, après avoir discuté avec nous, tout s'est arrangé. Et ça fait un an et demi que le grand-père est dans un EHPAD qu'il aime bien. Et eux vont le voir, ils n'ont pas divorcé ni rien. Donc en fait, c'est ça, c'est d'ouvrir un petit peu la communication sur ce sujet. Et une fois qu'elle sera ouverte...
Humanité, communication, bien vivre ensemble. Et vous le disiez, j'avais l'impression que ma grand-mère était immortelle, mais elle l'est parce qu'au final, elle vit toujours avec vous aujourd'hui dans ce message que vous portez.
Exactement. Et en fait, dans les conférences, etc., c'est vrai qu'on la fait revivre puisque je montre des photos de son évolution. Et pendant les voyages, les gens me disent chaque fois, en fait, quand vous commencez les photos, on voit bien qu'elle a bien 100 ans. Et au fur et à mesure, on a l'impression qu'elle rajeunit. Et c'est vrai, c'est ça, c'est donner des perspectives. Mais en fait, il n'y a pas d'âge. Hein. On l'a vu pendant le confinement, les gens, pendant 2 mois, ont été confinés à attendre bêtement, finalement, puisqu'on ne savait pas comment on allait faire le lendemain. Il n'y avait plus de perspectives, plus d'avenir. Donc, on s'ennuyait et on se laissait aller. Et ben, une personne âgée, c'est pareil. Si on ne lui offre rien en lui disant, ben voilà, toi, tu es sur un fauteuil, en fait, comme un meuble qui prend la poussière, et on va te déplacer de droite à gauche, c'est pas très réjouissant.
Donnons des perspectives à tous et tout, pour tous les âges. Merci beaucoup, Fiona Loriol, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Thierry. Je rappelle que vous étiez de passage sur Gap, et vous repartez sur Grenoble avant le grand rendez-vous à l'Assemblée. Hein. Rappelez-moi la date.
Alors, ça sera en juin 2026, à l'Assemblée et au Sénat.
Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin dans les studios d'Alpe 1.
Merci à vous.